les autres. Donc nous allons parler ce soir de la doctrine de la, du transfert et de la transmission de l'onction ou des dons spirituels. Romains chapitre 1er, verset 9. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Voilà donc que se répandent maintenant depuis quelques années à travers les églises et notamment à travers des conférences une pratique apparue dans les années 40 aux États-Unis et qui en son temps fut combattue par les assemblées de Dieu américaines. Une pratique qui s'est ensuite estompée, qui revient maintenant depuis une dizaine d'années suite à ce qu'on a pu appeler les réveils des bénédictions de Toronto ou d'autres choses, et qui maintenant prennent un essor particulier. C'est donc la question de l'impartition, c'est un mot américain mais qui est français aussi, impartition ou transmission ou transfert des dons, qui affirme qu'en rencontrant la bonne personne, mais généralement un apôtre ou un prophète, en tout cas quelqu'un qui en porte le nom, mais bon, tout chrétien a la possibilité de recevoir par imposition des mains l'un une onction, entre guillemets, ce qu'on a, certains appellent onction, l'autre tel ou tel don spirituel, l'autre telle ou telle bénédiction spéciale, pour certains de multiplication, de prospérité, voire tel ou tel ministère, pourquoi pas même apôtre ou prophète. Et donc les ouvrages et les vidéos attestant la réalité et les bénéfices de cette pratique sont nombreux et semblent étayer la pratique jusqu'à en faire une doctrine. Alors voilà une citation telle qu'on peut en trouver parmi de nombreuses autres. Un auteur a écrit « Lors d'une réunion d'impartition de puissance et des dons, vous recevrez une fraîche impartition pour agir dans le miraculeux, une révélation et une activation qui vous permettra d'avancer dans votre destinée, une onction pour atteindre de nouvelles hauteurs dans la gloire de Dieu, un renouvellement d'intérêt et de compréhension pour le royaume de Dieu. » Alors, à lire ces choses, les possibilités ouvertes par cette pratique sont énormes et attrayantes. Et si donc elles sont réelles, eh bien, nous les voulons pour nous-mêmes. Mais avant de les recevoir, il me semble bon, comme les Béréens, acte 17, de sonder la parole, pour voir s'il existe un appui biblique à cette pratique au point de la normaliser et de la systématiser, c'est-à-dire d'en faire une doctrine. Et alors, si les choses bibliquement se confirment, de reconnaître que ce serait là non seulement une découverte, mais aussi une avancée majeure dans la théologie chrétienne. De dire que par imposition des mains, quelqu'un peut donc communiquer un don particulier, une onction particulière, un ministère particulier. Alors ce soir, nous allons faire deux choses. D'abord, je vais faire un survol rapide des principes de base enseignés par ceux qui pratiquent l'impartition et le transfert des dons. Et deuxièmement, nous étudierons deux versets de l'apôtre Paul sur lesquels il s'appuie, notamment Romains 1, 11 et 1 Timothée 4, 14. D'abord, le survol de cette question et de la pratique de l'impartition. D'abord, je vais la définir. La pratique de l'impartition ou du transfert des dons repose sur l'idée que certaines personnes, certains ministères ont la capacité spéciale de transmettre ce qu'ils possèdent déjà. Que ce soit des dons spirituels, des bénédictions, des onctions particulières, la capacité de baptiser dans le Saint-Esprit, je dis bien, pas d'imposer les mains pour que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit, mais d'imposer les mains pour que cette personne puisse avoir une puissance particulière pour baptiser les autres dans le Saint-Esprit, d'accord ? Ou même un ministère de guérison, de délivrance. Alors, je vais être précis. C'est donc pas ici le simple fait d'exercer un don, par exemple, imposer les mains en prophétisant sur une personne, mais lui transmettre le don, la capacité, la puissance de prophétiser à son tour. L'impartition, c'est donc le transfert des dons, notamment par l'imposition des mains. Alors cependant, ce ne sont pas tous les croyants qui ont cette capacité de transmission, mais simplement des personnes reconnues pour cela, des personnes choisies et ointes par Dieu pour cette chose particulière. Alors pour certains, cette transmission peut se faire sur une initiative personnelle du transmetteur. Et c'est pour ça que dans certaines conférences, les prédicateurs qui pratiquent ce genre de choses vont appeler les gens devant, vont leur imposer tout simplement les mains aux uns aux autres et leur communiquer directement telle ou telle chose, tel ou tel don. Sans les connaître, mais simplement parce qu'ils ont répondu à l'appel. D'autres, un peu plus modérés, vont simplement dire que pour transmettre un don, il faut d'abord être convaincu par le Saint-Esprit. Que ça ne peut pas venir de l'homme, mais il faut d'abord que ça vienne du Saint-Esprit. On verra ça ensuite. Maintenant, la qualité de ce transfert par imposition des mains dépend de deux choses. D'abord, de la proportion de la foi de la personne qui reçoit. Bon, ça, c'est très biblique, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais aussi de la puissance et de la qualité du don et du ministère de la personne qui le transmet. Autrement dit, quelque part, on ne peut pas recevoir plus que ce que la personne peut transmettre. Là, je crains quand même un souci d'appauvrissement. Vous comprenez? Ça veut dire qu'au fur et à mesure, ça va décliner. Donc là, il y a quand même une question qui se pose. Alors maintenant, ce qui veut dire que je pose déjà la question de savoir s'il ne vaut pas mieux directement s'adresser à la personne qui possède tout pleinement et qui ne donne jamais en partie le Saint-Esprit. Bon. Quelques concepts fondamentaux concernant l'impartition. Le premier concept de base s'appuie sur l'idée, chaque chose est intéressante, sur l'idée que nous avons sur terre, dans l'Église, quasiment pleinement tout ce qui peut être offert par le ciel. Par exemple, Paul semble dire ces choses dans 1 Corinthiens 1,7, il dit à l'Église, il ne vous manque aucun don. Donc tous les dons seraient déjà dans l'Église. Dès lors, plus qu'une grâce venue du ciel est obtenue dans la prière, ce que nous devrions faire en tant que peuple de Dieu, c'est répandre à travers nous les dons qui sont déjà au milieu de nous. Puisque tout ce qui est dans le ciel, nous l'avons déjà au milieu de nous. Bon, c'est intéressant. Maintenant, de savoir si nous pouvons le répandre au milieu de nous sans passer par le ciel, la question est là. Second concept, et là, c'est aussi délicat, c'est que cette pratique ne fait pas de distinction entre l'expression des dons et les dons eux-mêmes. On va le voir notamment par rapport à Romains 1,11. Et comme ils ne font pas de distinction entre l'expression des dons et les dons eux-mêmes, eh bien, du coup, on peut autant communiquer l'un que l'autre. Communiquer l'expression d'un don ou communiquer directement le don lui-même. Troisième chose, est liée directement au verset, au verbe transmettre, que nous avons par exemple ici dans Romains 1,11, derrière le verbe communiquer, car je désire vous voir pour vous communiquer. Dans d'autres versions, c'est partager, c'est transmettre ou partager. C'est un verbe qui, dans la Bible, évoque l'idée non pas simplement de donner, mais bien de partager. Et notamment partager quelque chose que l'on possède avec quelqu'un qui ne le possède pas. Donc, cette idée de partage est là. Voilà donc les trois des concepts de base de cette pratique, le fait que tous les dons qui sont au ciel sont a priori dans l'Église et qu'il conviendrait que nous les partagions les uns avec les autres. Deuxièmement, qu'il n'y a pas de distinction entre l'expression des dons et les dons eux-mêmes. Donc, si on communique l'un, on peut aussi communiquer l'autre. Troisièmement, le verbe partager, transmettre, qui parle donc de donner, partager, donner à quelqu'un quelque chose que nous avons déjà. Alors, ces idées sont intéressantes. Je le disais, si tout ça se confirme bibliquement, c'est très intéressant. Parce que si nous avons vraiment la possibilité, Bible à l'appui, de pouvoir communiquer des dons que nous avons déjà reçus, évidemment, on comprend que l'œuvre de Dieu peut prendre un essor nouveau. Si j'ai un don de la foi et que je peux prier pour que l'un ou l'autre le reçoive par imposition de mes mains, à condition que j'ai aussi de la part du Seigneur le don d'impartition, eh bien évidemment que ça va, entre guillemets, faire avancer l'œuvre de Dieu d'une manière remarquable. Alors maintenant, voyons ce que la Bible nous dit. Nous avons ici le texte que j'ai, premier texte que j'ai choisi, mais qu'ils utilisent aussi beaucoup, Romains 1, 11. Où il est donc question de partager, communiquer quelques dons spirituels. Ici, don spirituel, en grec, charisma pneumaticon, charisma charis grâce, pneumaticon pneuma le souffle, ce qui vient de l'esprit, c'est la même expression qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, 1. Donc ici, il s'agit bien des dons spirituels d'un Corinthiens 12, les 9 dons de l'esprit. Donc, juste une chose, dans ce verset, en tout cas, Paul ne parle absolument pas des dons de ministère, des dons de la parole. Il ne parle que des dons spirituels. Or, puisqu'on est au sujet des dons spirituels, il est écrit, 1 Corinthiens 12, 7, que ces dons sont des manifestations. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et j'ai toujours enseigné ceci, je ne changerai pas a priori, que les dons spirituels étant des manifestations ne nous appartiennent pas. Nous ne les possédons pas d'une manière permanente, mais comme ce sont des manifestations, ce sont des impulsions ponctuelles et spontanées. Le Saint-Esprit distribue un don qui va se manifester. Certes, la foi et la pratique rendent telle ou telle personne plus sensible à telle ou telle forme de don, que ce soit les dons en langue, l'interprétation, la prophétie, la parole de connaissance. Mais à aucun moment, bibliquement, se justifie l'idée de dire « je possède tel don ». La seule chose qu'on peut dire, c'est que Dieu m'utilise pour manifester tel don spirituel. Ensuite, 1 Corinthiens 12, 11, Paul écrit « un seul et même esprit opère toutes ces choses » les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce sont donc des dons qu'il suscite lui-même, c'est lui qui opère toutes ces choses, et il les donne à qui il veut, c'est lui qui les distribue. C'est le Saint-Esprit, ce qui signifie qu'aucun homme ne peut de lui-même manifester un de ses dons de l'Esprit. Et si quelqu'un même va vouloir prophétiser, parler de manière prophétique, mais sans être poussé par le Saint-Esprit, pour ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit, on sentira bien, on discernera bien qu'il manque quelque chose, une dimension réellement spirituelle. Alors non seulement on ne peut pas manifester un don de son propre chef, il faut l'impulsion du Saint-Esprit, mais encore moins distribuer un don que l'on ne possède pas, puisqu'il appartient au Saint-Esprit. Et la distribution reste du fait du Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons les transmettre, ni les transférer, puisqu'ils ne nous appartiennent pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. Alors la lecture classique, pentecôtiste, de ce texte de Romains 1, 11, est de dire que Paul avait le désir de partager avec les chrétiens de Rome des dons spirituels, que ce soit des paroles de prophétie, de connaissance, de sagesse, etc., D'ailleurs, il dit dans Corinthiens 14, parlant à cette église, mais je viens vers vous par révélation, par doctrine, par connaissance, par prophétie. Donc, il venait pour apporter des paroles inspirées. Et personnellement, je m'en tiendrai à cette lecture. Car je ne vois aucun soutien biblique pour estimer que Paul désirait leur communiquer la faculté d'exercer tel ou tel don spirituel, parce que pour lui, c'était uniquement du ressort du Saint-Esprit. Mais Paul était convaincu que le Saint-Esprit l'accompagnerait dans son ministère comme il l'a toujours fait. Et il avait le désir d'aller visiter cette église pour manifester auprès d'eux les dons que le Seigneur ferait monter dans son cœur. Ok ? Voilà l'approche que nous avons dans ce texte et à aucun moment, eh bien, nous n'avons une argumentation biblique pour dire que Paul avait l'intention d'aller à Rome pour leur donner la possibilité à leur tour eh bien, d'exercer le don de prophétie, le don de la parole de connaissance, etc., simplement en leur imposant les mains. Intéressons-nous maintenant à un autre verset. Je vous invite à aller dans 1 Timothée 4,14. Et ça, c'est aussi un verset clé. Et puis, s'il y a quelqu'un, si vous êtes deux à partager une Bible ou quoi, vous pourrez regarder aussi dans 2 Timothée 1,6. 1 Timothée 4,14. Timothée 4,14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ah, là on a un texte intéressant. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ok. Il est donc dit que Timothée reçut un don particulier, que Paul ait dit être un don de Dieu, qui lui fut donné par prophétie et avec l'imposition des mains. Chaque mot est précis. Alors évidemment, ce verset est un test déterminant pour la pratique de l'impartition des dons, puisqu'il est donc là question de l'imposition des mains et du fait de recevoir un don. D'abord, quel type de don ? C'est le mot charismatos. Charisme, charismatos. C'est donc pas le même mot que l'on a dans Romains 1,11 et dans 1 Corinthiens 12, charismatos pneumaticon. Ce n'est pas un don spirituel ici. Charismatos, c'est le même mot que l'on a dans Romains 12,6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée par celui qui a le don de prophétie, l'exercice, que celui qui a le don de les prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. À chaque fois, comme dans 1 Timothée 4,14, le don c'est charismatos. L'année dernière, on avait étudié les dons, on avait vu qu'il existe 3 catégories de dons dans le Nouveau Testament. Les pneumaticons, qui sont les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, Romains 1,11, les dons de ministère, les doréas, Éphésiens 4,11, le don, l'apostolat, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs, les pasteurs et les docteurs. Ça, c'est les dons de ministère, les dons de prédication de la parole. Et enfin, Romains chapitre 12, comme je viens de le citer, ou 1 Pierre chapitre 4, les dons de grâce, qui sont les dons de service, les dons de fonctionnement. Et ces dons-là ne sont pas comme les dons spirituels, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un le reçoit, il le reçoit en permanence. Si mon frère, ma sœur, tu as reçu un don de... Alors, Paul cite par exemple le don d'enseignement, ce n'est pas la prédication, mais c'est de pouvoir enseigner ses frères et sœurs, leur donner les instructions nécessaires pour grandir dans la foi, mais aussi les dons de libéralité et d'administration. Si tu as reçu ce don, c'est un don que tu possèdes. Il est à toi, d'accord ? Et tu es appelé à le faire grandir, à le faire développer. Ce n'est pas un ministère de la parole, mais c'est quelque chose déjà qui sera très utile au service de Dieu et à l'avancement de l'Église. Vous pouvez revoir tout ça, on l'avait étudié en détail l'année dernière, mais il est bon toujours de se rappeler ces choses. Donc, ils sont différents dans leur nature des dons spirituels. Ce sont des charismatos. Donc, Timothée a reçu un don à ce moment-là, c'est clair. un don qui est à lui, un don qui est significatif dans sa vie, à un tel point que Paul lui dira de ranimer le don qu'il a reçu. Alors maintenant, voyons comment ce don a été communiqué à Timothée. Les partisans de l'impartition, voilà une démonstration biblique solide de leur thèse. Quelque chose s'est produit parce qu'il y a eu imposition des mains. Et donc, il y a eu un transfert de dons sur la base d'une action d'un homme de Dieu. Alors maintenant, regardons le texte. On lit d'abord qu'il y a eu une prophétie. Tu as reçu un don par prophétie. Or, nous l'avons redit, c'est le Saint-Esprit qui distribue et inspire les prophéties authentiques. Et Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je veux croire que lorsque l'apôtre Paul prophétisait, il était inspiré par le Saint-Esprit. Et donc c'est le Saint-Esprit qui a poussé Paul à prophétiser sur Timothée en lui disant donc qu'il recevait maintenant un don. Mais ça venait pas de lui, ça venait du Seigneur. Suite à cela, avec les anciens, il a imposé les mains à Timothée. Il est dit avec l'imposition des mains. Ça veut dire que cette imposition des mains a suivi, elle a accompagné la prophétie. Et pour moi, cette imposition des mains ne visait pas à transmettre quelque chose, mais à consacrer Timothée par rapport au don qu'il venait de recevoir par prophétie de la part du Seigneur. On a la même chose dans Actes 6 avec les diacres. Lorsque les diacres ont été élus, les apôtres ont jeûné, ils ont pris le temps, ils ont prié et ils leur ont imposé les mains. Dans l'une des épîtres à Timothée, Paul dit à ce sujet, au sujet des anciens, « Ne te précipite pas à imposer les mains, d'abord juge bien des choses. » Et puis, je pense aussi à Actes chapitre 13, à Antioche, les prophètes et les docteurs jeûnent. Et là, le Seigneur parle, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. J'en profite pour souligner que c'est à l'initiative du Saint-Esprit que Paul et Barnabas sont rentrés dans leur apostolat. D'ailleurs, il le dit lui-même, ce n'est ni par la volonté d'un homme, ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas un homme qui lui a transféré un ministère d'apostolat, ce n'est pas quand Ananias est venu lui imposer les mains pour qu'il guérisse qu'il est devenu apôtre. Mais c'est parce que Dieu avait déjà préparé les choses. D'accord ? Là c'est pareil dans cette histoire de Paul et Barnabas. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui les envoie dans l'œuvre apostolique. Et que font les apôtres à ce moment-là ? Plutôt, pardon, les prophètes et les docteurs d'Antioche. Les frères, ayant prié, ayant jeûné, ils vont leur imposer les mains pour les consacrer et les bénir dans l'œuvre qu'ils vont devoir engager maintenant, conduit par le Saint-Esprit. Donc on le voit, à chaque fois qu'il y a là cette question d'imposition des mains, c'est une consécration, c'est un accompagnement et ce n'est pas le fait d'imposer les mains qui a transmis la bénédiction. L'imposition des mains est importante. L'imposition des mains est utilisé notamment dans le baptême du Saint-Esprit. Là, il y a des appuis bibliques sérieux. Dans la guérison, pas forcément dans la délivrance. Parce que dans la délivrance, il faut chasser. Non, pas forcément d'imposer les mains, mais elle peut venir. Mais donc, l'imposition des mains est aussi utilisée dans la consécration de ce que Dieu met à part pour son œuvre. Mais bibliquement, je ne vois à aucun moment l'utilisation de l'imposition des mains pour communiquer à quelqu'un un don, surtout quand c'est de sa part. Pour Paul et Timothée, qu'est-ce qui s'est passé ? Paul, je résume, inspiré par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, dit à Timothée, le Seigneur t'a communiqué quelque chose. Le Seigneur te communique. Je ne sais pas ce qu'il lui a dû dire. Mais en tout cas, il lui a confirmé, tu as reçu un don. Tu reçois ça aujourd'hui. Et ensuite, à cause du moment solennel, et ils comprennent qu'il y a vraiment un temps de Dieu, ils imposent les mains. Moi, j'ai entendu plein de témoignages, notamment de frères qui sont partis en mission. D'ailleurs, je crois que c'est... on l'a entendu, me semble-t-il, avec Timothée, hein, de paroles de prophétie qui sont données dans une église, d'accord, où le Seigneur les appelle à tel ou tel ministère, à la mission et choses. Et puis, donc, ils ne le reçoivent pas par un homme, mais du Seigneur. Et souvent, ensuite, l'église s'unit dans la prière, va imposer les mains pour les bénir, d'accord. Alors maintenant, je finis par quelques questions de fond. La pratique d'impartition des dons est bien plus la systématisation de cette pratique. Au point que, comme j'ai dit, dans des rassemblements, on appelle la foule à venir devant et puis pam, 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 on va toucher les gens pour qu'ils reçoivent tel ou tel don. Et ça soulève des questions de fond. Peut-on normaliser des cas ponctuels possibles ? Je vais vous dire, je crois que dans bien de ces milieux pentecôtistes charismatiques, les gens viennent surtout dans ces rassemblements avec une réelle attente, une réelle foi. Et dans beaucoup des églises, il y a peut-être parfois plus de foi que même au milieu de nous, il y a une attente qui est là. Et dans d'autres pays, Phoebe, tu m'en parlais quand tu étais chez toi. En Amérique du Sud, il y a cette attente quand vous venez dans les églises. Et à cause de ça, notamment en Amérique du Sud, il y a eu des choses, des manifestations miraculeuses qui sont arrivées. Le problème, comme je le disais la semaine dernière, avec nous occidentaux, c'est qu'on aime bien systématiser. On aime bien faire une norme et faire une doctrine pour que ça soit reproductible. Et donc de quelque chose qui est ponctuel, parce que Dieu est libre et il peut agir comme il veut. Moi, je vais vous dire, je le crois, si le Seigneur, comme c'était le cas il y a quelques années en arrière, veut, pour guérir quelqu'un de ses dents, lui mettre une dent en or, il est tout à fait capable. Surtout quand c'est des gens qui sont très pauvres, qui n'ont pas accès à la chirurgie dentaire qui était très, 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 très chère. Mais ça peut arriver. Le problème, c'est d'en faire une nouvelle norme et une pratique systématique. Maintenant que le Seigneur ait utilisé l'un ou l'autre, un serviteur de Dieu, pour parler à un autre et lui dire, voilà, le Seigneur te donne aujourd'hui tel don, telle puissance, tel ministère, il va t'ouvrir ça, il y a vraiment une onction de Dieu qui vient sur là, et on est saisi par cet instant, et l'homme prie, et cette personne qui reçoit va rentrer dans quelque chose de puissant. Ça arrive. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faille en faire quelque chose de systématique. Évidemment, l'intérêt, c'est qu'après, ça permet de faire de grandes conférences. Ça, c'est un point, la question de la normalisation des cas ponctuels. Deuxièmement, et ça, c'est plus profond, la question de la prêtrise universelle et de celle de Christ en particulier. Jésus-Christ est notre grand prêtre. Il est l'unique médiateur entre Dieu et nous. Et la volonté de recourir à des impartiteurs, des transmetteurs, des transféreurs, est un risque d'affaiblissement de la médiation de Christ et de la prêtrise universelle. Dans certaines églises traditionnelles, ce sont les prêtres donnent les sacrements. Pardonnez-moi, je vais être très direct. Dans certaines églises pentecôtistes charismatiques, les apôtres prophètes communiquent les dons. Et c'est la même chose. Parce que le sacrement, oui, en théorie, doit venir à la rencontre de la foi de celui qui le reçoit pour devenir efficace. Mais en fait, dans la pratique, il suffit de prendre le sacrement pour participer à la bénédiction. Hein, ça vous rappelle de vieilles choses. Eh bien, dans cette manière de faire et de transmettre les dons, il y en a qui vont venir, sans la foi, sans une vie chrétienne vraiment enracinée dans le Seigneur, mais voilà, l'apôtre m'a touché et j'ai reçu le don. La force de la Pentecôte, c'est une relation directe avec le Seigneur, prêtre et prophète. Et vouloir mettre des médiateurs entre cette relation entre nous et le Seigneur par son esprit, c'est affaiblir et ça serait très dommageable. Mais bien sûr, des fois, c'est plus facile d'aller voir un apôtre, quitte à payer un ticket de train, un billet d'avion pour aller réclamer tel ou tel don, que de passer du temps dans la présence du Saint-Esprit, d'autant plus que le Saint-Esprit ne donne pas forcément les dons qu'on veut. Ça, il est libre. Alors finalement, voilà ma position. Initialement, je voulais dire ceci. Pour moi, oui, il n'existe aucune base biblique pour normaliser, systématiser, j'allais dire doctrinaliser cette pratique. J'étais prêt à dire aussi, oh, mais maintenant j'accepte les cas particuliers où un homme de Dieu ait pu transmettre tel ou tel don. Ok. Après réflexion, j'ai encore plus affiné ma position et je dis, aucune impartition, ou même, parce que ça devient aussi à la mode, ou même activation d'un don, ne peut être le fait d'un homme de Dieu, quel que soit son ministère. Celui qui donne les dons ne s'en repent pas, c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit distribue les dons spirituels, Jésus, les dons de service et les dons de la parole. Maintenant, je sais, on va me dire, hey, regarde ces exemples, regarde ces témoignages, qu'en fais-tu? Je réponds, oui, il y a des témoignages pour dire que telle ou telle personne, après avoir rencontré tel ou tel prédicateur, est rentrée dans une autre dimension de sa vie et des dons se sont mis à l'œuvre dans sa vie. Ok, mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'il y a eu transfert des dons. Mais je crois que le Saint-Esprit est capable d'agir à travers certains prédicateurs qui parfois ont des doctrines bizarres, mais qui sont capables de stimuler la foi de ceux qui les écoutent. Et c'est vrai autant pour les transmetteurs de dons que même pour ceux qui ont un ministère de guérison tout en ayant parfois des doctrines très étranges. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette capacité, c'est vrai, à aller stimuler la foi, d'autant plus que les gens viennent de plus en plus et on s'encourage dans la foi. Et du coup, ces personnes, elles reçoivent. Elles reçoivent. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils vont voir tel ou tel gars? C'est quand même bizarre, tel ou tel ministère, et ils sont guéris, ou il y a cette nouvelle dimension dans leur vie, et ils en témoignent. Pour moi, c'est simplement une question de foi, encore une fois. C'est vrai pour l'activation. Certains vont dire, ah, je suis allé voir telle personne, j'ai suivi tel enseignement, j'ai été activé dans mon ministère. Avant, il n'y avait rien dans ma vie. Pourtant, les dons étaient en moi. Et puis, j'ai rencontré ça, on a prié pour moi et j'ai été activé. Mais ce n'est pas le fait tellement de l'imposition des mains, c'est le fait d'avoir été encouragé dans sa foi. Et je finis par ce mot tiré de Galates 3:2, où Paul dit aux chrétiens, c'est par la prédication de la foi que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est ce que je vous dis. Ces gens qui, je veux le croire, sont tout à fait, je peux les appeler des frères, des sœurs, même s'ils n'ont pas tout, on n'a pas forcément la même théologie, la même approche, mais ce sont des prédicateurs de la foi. Et ils savent créer ça. Et ils ne s'embêtent pas, ils y vont directement, et ils prennent beaucoup moins de pincettes que nous. Mais ce qui est bien, c'est quand non seulement on prêche la foi, mais on la prêche d'après la parole de Dieu. Ça nous permet d'éviter parfois des écueils, parce que combien de fois aussi, même dans ce genre de rassemblement, où il y a des gens qui savent prêcher la foi et qui savent prêcher ce genre de choses, eh bien, il y a des gens qui repartent avec une tête pas possible et des chevilles qui ont triplé de volume, mais qui pour autant n'ont rien reçu, mais qui en ont la prétention. Parce que ça, c'est pas parce qu'on vous aura imposé les mains, on vous aura dit « tu seras missionnaire jusqu'aux extrémités de la terre » que tu vas le devenir. Il faut que le don ensuite soit éprouvé, c'est là qu'on voit les choses. « Mais dans tous les cas, c'est lui le dispensateur des dons. Ben, si le Seigneur choisit d'utiliser un homme qui va prophétiser sur vous et vous imposer les mains ensuite, eh bien, c'est dans sa grâce. Mais maintenant, dans votre chambre de prière, il est tout à fait capable de donner les dons. Et comme l'apôtre Paul le disait, je le citais tout à l'heure, je reprends ça, il ne vous manque aucun don. Et donc, je ne crois pas que j'ai quelque chose en termes de dons à vous transmettre. Ce n'est pas mon travail. Mais notre travail, à nous, pasteurs, et on doit certainement encore plus progresser dans ça, c'est de vous amener à croire et donc à mettre en œuvre ce que vous avez reçu du Saint-Esprit. Ok. Et puis si le Seigneur un jour nous utilise pour prophétiser sur vous, pour dire vous avez reçu un don, eh bien, que le Seigneur soit loué. Vous pouvez avoir d'autres approches de ça, d'autres questions, je reste à votre disposition. C'est ce que je voulais partager. On avait un peu de temps avant la reprise de l'année scolaire, le temps d'aborder des sujets un peu différents qui nous amènent à réfléchir, mais parce que je sais aussi que ce sont des questions qui sont là pour plusieurs au milieu de nous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce que ces dons extraordinaires qui sont auprès de toi, tu ne les as pas gardés pour toi. Tu ne les as même pas gardés pour quelques hommes comme au temps des prophètes de l'Ancienne Alliance, mais Seigneur, ces dons, tu les as donnés pour ton Église, pour ton peuple. Comme Paul l'a écrit, vous pouvez tous prophétiser. Comme Pierre l'a écrit, nous sommes chacun les dispensateurs des dons, du don que nous avons reçu. Alors oui, Seigneur, je crois qu'il y a un don pour chacun d'entre nous, et c'est auprès de toi que nous le trouvons. Maintenant, ce que nous voulons faire ensemble, c'est grandir dans la foi, Seigneur, pour exercer ces dons. Et mon Dieu, si ma joie serait non pas de transmettre un don, mais peut-être de permettre à quelqu'un d'avancer dans ce sens et de prendre confiance dans ce que le Seigneur lui donne, et d'amener donc cette personne à vivre pleinement les promesses qui sont dans sa vie. Encore une fois, merci parce que tu as fait une multitude de dons à cette Église. Permets-nous, Père, de les utiliser, de les manifester tous. Alors c'est certain, nous verrons de grandes choses se produire. À toi toute la gloire dans les cieux et sur la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.